Lavoie est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Allô Luc, comment vas-tu?
Ça va bien Myriam, j'étais en train de vous écouter tantôt. De quoi parliez-vous?
Du climat. De quoi?
Je pense que vous parliez de troisième lien. Je te dis que depuis que je suis parti, ça manque de discipline.
On a parlé du troisième lien.
Ouais, t'en as glissé un mot, Myriam.
Oh, oups. Je suis rendu, je m'en rendais même plus compte. C'est vrai que j'ai dit que quand on va tout être en petit char électrique, un jour, on va avoir quand même besoin d'une route. Dont le troisième lien.
Ah, déjà t'as évité l'expression. Là. Bon, bonjour Myriam, bonjour Jeff.
Salut, Luc.
Salut. As-tu regardé Tout le monde en parle hier?
Évidemment que je l'ai regardé.
Avec Mulroney qui était là, qui a fait...
Oui.
Il est encore intéressant à regarder et à entendre parler.
Ah, moi, je l'ai trouvé vraiment très, très bon hier. Évidemment, tu le sais là, que je ne suis pas du tout objectif dans ça, parce
non.
que j'ai travaillé avec lui tellement étroitement, c'est quasiment quelqu'un de ma famille. Mais néanmoins, je dois dire que l'ayant vu dans je ne sais plus combien de centaines d'entrevues et tout, c'est une des bonnes. Et aussi, on voit maintenant qu'il porte ses 80 ans qu'il aura après-demain. Mais il les porte très bien. Il a encore son espèce de tenue très digne et tout. Encore capable du même humour.
Mais là, on a compris
encore
que...
Oui.
On a compris que ni Trump, ni Lucien Bouchard ne seront... Ni Stephen Harper ne font partie de ces réveillons.
Ça, on a compris ça, en effet. Mais quand il a utilisé cette expression-là, c'est tellement lui, ça. Harper, il a été un bon manager du gouvernement, mais je passerai pas le réveillon avec lui. Et dans le cas de Trump, il a été fort habile.
Ouais.
C'est-à-dire que, oui, je le connais, puis il a réalisé des belles choses dans la vie, puis tout ça, mais là, il commence à défiler ça. Il est en chicane avec tous ses alliés naturels, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, le Canada, le ci, le ça, le ça. Et ça, c'est extrêmement nuisible et patati et patata. Et il termine en disant, mais il faut s'entendre avec lui, on n'a pas le choix, c'est le président des États-Unis.
C'est ça, j'avais l'impression que, dans le fond, la langue, il brûlait de dire plus que ça, mais qu'il se ménageait. Est-ce qu'il est encore mêlé à des négociations avec les États-Unis?
Je ne crois pas,
non?
Peut-être, mais je ne crois pas. Mais qu'est-ce que tu veux, il vit... à peu près la moitié de sa vie aux États-Unis, en Floride. Et il y a encore un réseau de contacts absolument incroyable. Et oui.
Veux-tu le réentendre?
Allez.
Donald Trump, c'est un gars exceptionnel. Il est président des États-Unis. Il faut s'entendre avec lui. Parce que le président des États-Unis mène large. C'est important pour le Canada. Mais je pense qu'il a posé des gestes, il a pris des tournures. C'est difficile pour les États-Unis. Et ce qui est en train, dans certains cas, perdre des amis, des alliés loyaux, ouais. fidèles, il se crée des problèmes humains, énormément. Et moi, je pense qu'il se nuit pour des raisons que je ne comprends pas. C'est un gars intelligent, il a réussi quand même des belles choses dans sa vie. Mais dans ce contexte ici, je trouve que le plus grand ennemi de Donald Trump, c'est Donald Trump.
La formule est claire. Oups, je t'entends plus, Luc. Ouvre ton micro.
Oh, excuse-moi, c'est encore moi qui... je me souviens d'avoir... Quand Trump a lancé sa campagne qui l'a mené à la présidence, on devait donc être à l'été 2015, je crois. J'avais mangé avec M. Mulroney. Puis j'avais demandé, comme tout le monde, le connaissez-vous? Ah, il dit, bien sûr que je le connais. Il dit, sa femme, Mélanie, parle la même langue que Mila. Donc, il y a un lien, là. Puis, il dit, on s'est arrivé une couple de fois qu'on a lunché les couples ensemble en Floride et à New York. Puis, il dit, c'est un gars un peu spécial, mais c'est pas un mauvais gars. Il dit, avec moi, il a toujours été bien correct. Ça, c'était avant que ça se mette à, ça se mette à déraper. Et là, à mesure que ça dérapait, je disais, puis, M. Mulroney, Trump. Puis il me disait toujours, ma femme me dit toujours, Brian, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me semble que le gars qu'on voyait socialement, il ressemblait pas à ce gars-là, tout ça. Bon, alors, Mulroney étant qui il est, il coupe jamais les ponts.
Okay.
À moins que ce que lui perçoit comme de la trahison. Et ça, on l'a vu dans le cas de Lucien Bouchard. Là, je l'ai trouvé assez amer, encore une fois. Puis ça fait tellement longtemps de ça. Écoute, ça fait 29 ans. Ça va faire 29 ans que cette affaire-là est arrivée. T'en as un extrait.
Ah oui, je vais te faire écouter un extrait. Écoute, ça laisse entendre que Lucien Bouchard lui devait tout.
Il n'a pas quitté mon gouvernement. Je l'ai congédié.
Vous l'avez congédié?
Je l'ai congédié à 24 Sussex.
Mais lui en voulez-vous encore 29 ans
plus tard? Non, écoutez, il a fait ce qu'il avait à faire. On sait maintenant, à cause de la publication de certains livres d'histoire, que toute cette affaire-là est organisée avec le gars des vues. Hein? On était confrères de classe à Laval. C'est un gars brillant, sympathique, intelligent. Et je l'ai fait nommer à la commission Cliche en 74 comme procureur. Ensuite, je l'ai nommé ambassadeur à Paris. Ensuite, je l'ai nommé au gouvernement canadien comme ministre, sans avoir été élu. Là, on l'a fait élire dans Alma, puis il revient ministre de l'Environnement, un portefeuille extraordinaire. Et là, 18 mois après, son assermentation comme ministre, il a claqué des portes.
Ça lui reste sur l'estomac, c'est clair. Et il semble dire, Lucien Bouchard me devait tout, dans le fond.
Ouais, ça, c'est une façon de l'interpréter, mais c'est vrai qu'il l'a nommé, il l'a fait nommer procureur à la commission Cliche, puis ambassadeur à Paris, puis ministre, tout ça, c'est vrai, c'est incontournable. Mais, tu sais, moi, quand Lucien Bouchard est entré de Paris, où il était ambassadeur, puis qu'il a été nommé ministre avant même d'être élu, moi, je travaillais au cabinet du premier ministre, au PMO, comme on dit, et j'étais conseiller senior, et on m'avait envoyé devenir son directeur de cabinet au chief of staff, Lucien Bouchard, sur une base intérimaire en attendant qu'il trouve des gens à mettre en place. Mais il s'est avéré que le déclenchement de l'élection dans Lac-Saint-Jean, où se trouve la ville d'Alma, qui est la ville principale du comté, s'est fait rapidement. Et donc, je suis resté son chief of staff et même l'organisateur en chef de sa campagne dans Alma, qu'on avait gagné à la dure. On avait gagné avec des gros chiffres, mais peu importe. Ça a fait en sorte que moi, je suis devenu très proche de Lucien Bouchard, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam quelques mois auparavant, et que ça s'est maintenu à travers le temps. Et M. Mulroney en voulait tellement à M. Bouchard qu'il ne tolérait pas les gens qui gardaient le contact avec lui, sauf moi. Pourquoi moi? J'ai jamais demandé, pour dire le vrai. Je pense que c'est parce qu'il est conscient que ma loyauté première va à lui, pas à M. Bouchard. Et deuxièmement, c'est classique de sa personnalité. Il laisse toujours une porte quelque part. J'étais devenu comme la porte. Okay. Alors moi, j'aurais tellement aimé qu'un jour, le niveau d'amertume baisse.
Mais hier...
Et c'est moins pire que ça a déjà été, mais je l'ai vu hier, là, paf, il est reparti instantanément. Il l'a jamais avalé, celle-là.
Non.
Ça a tué son rêve de réconciliation nationale, les gestes posés par Bouchard. Enfin, c'est comme ça que lui l'interprète. Et je peux pas dire autrement que je le comprends, mais j'aurais aimé que son niveau d'amertume baisse un peu. Après 29 ans, là, pourtant, il a l'air assez sage dans les autres matières, mais celle-là, il prend pas.
Il a volé à la rescousse de sa fille durant l'entrevue, en minimisant d'ailleurs la démission d'Amanda Simard, qui était dans l'histoire de l'Ontario, là, de l'université francophone.
Les franco-ontariens.
Donc Ford a coupé dans les services aux franco-ontariens. Amanda Simard a claqué la porte, elle a été une héroïne. Caroline Mulroney est restée dans le gouvernement de Doug Ford. Et hier, il se fait questionner là-dessus et ça donne juste quelques secondes, ça donne ceci.
La petite fille qui a démissionné, là, elle est partie. C'est fini, ça. Mais Caroline est toujours là pour défendre les intérêts des francophones de l'Ontario.
Puis il a dit, vous allez voir, là, elle va les défendre.
Ah, ben il a raison là-dessus, hein? Il a raison là-dessus. Mais parlons de la petite fille, là. Il s'en voulait beaucoup ce matin d'avoir utilisé cette expression-là.
Ah oui?
Parce qu'il y en a qui réagissent très mal, là. Ça monte aux barricades en Ontario francophone. Alors, je pense qu'il va émettre un communiqué bientôt pour dire que ce qu'il voulait dire, c'est la jeune femme. Et j'ai dit la petite fille sans y penser. J'avais aucune intention d'insulter ou d'humilier. Je le regrette, patati patata. Mais c'est sûr qu'il va défendre Caroline. Et moi, Caroline, je la connais depuis qu'elle a, ma foi, je dirais que je la connais depuis qu'elle a à peu près 10 ans. Et les enfants Mulroney parlent tous français, ont fait leur éducation primaire et secondaire en français. Et Caroline est très à l'aise en français. Là. Caroline peut fonctionner complètement en français. Et elle est convaincue aussi du bien fondé des droits des Franco-Ontariens. Mais le gouvernement de Ford, faut que les gens n'oublient pas ça, a été élu en bonne partie parce que Mme Wynne, qui était là avant lui, avait accumulé un déficit annuel de 15 milliards. C'est épouvantable. Alors, il fallait qu'il coupe, puis on sortit à scie mécanique, puis un morceau de franco-ontarien qui y a passé. Soit dit en passant, l'université francophone n'existait pas. C'était un projet. Ils ont éliminé le projet pour une période, je ne sais pas combien de temps.
Mais tu m'avais expliqué que c'était un vieux rêve qui était enfin sur le bord de se concrétiser. C'est comme le troisième lien pour nous autres, là. C'est comme si tu arrêtais le chantier au moment où les pépines arrivent.
Myriam, je m'ennuie de toi. Myriam, je m'ennuie de toi. Mais revenons à M. Mulroney. J'ai trouvé, grosso modo, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais je l'ai trouvé extrêmement sympathique, toujours aussi très enjoué, rapide, vif. Tout est là, il y a 80, mais il y a rien qui a diminué dans l'affaire. Là, il opère encore à un rythme d'enfer. Il fait partie du conseil d'administration. Il est encore président du conseil de Québécois. Il est encore à son bureau d'avocat, Norton Rose à Montréal. Il se promène dans le monde entier sans arrêt. Il y a un réseau de contacts comme personne au monde. Et je le vois là et je redécouvre le gars que j'ai connu qui était le gars de Bécomo. Il est toujours là, le gars de Bécomo, tu comprends? Il y a un côté chez Mulroney très attachant qui vient du fait qu'il est un peu gamin. Mm-hmm. Tu sais, il aime les gamineries, puis les mots d'humour, puis les affaires. Je te le dis, là, Myriam, et tous ceux qui l'ont rencontré en privé vont le confirmer, c'est un des gars les plus drôles. Si tu veux rire une soirée de temps, qui que tu sois, de quelque croyance politique que tu sois, il est vite, tu te roules de rire. Quand il s'y met puis qu'il commence, ou quand il décide qu'il donne son spectacle de chanson, c'est... Puis à un moment donné, quand il y avait eu le mariage de son fils Nicolas, le dernier, c'était à Toronto, ça doit faire 4, 5, 6 ans, il y avait le dimanche, le lendemain du mariage, là, monsieur et madame Mulroney recevaient pour un brunch. Puis il y avait loin un endroit à Toronto. Et comme par hasard, il y avait un piano.
Oh non.
Alors je voyais Mulroney qui arrêtait pas de regarder le piano. Je le connais. C'est parce que c'est vrai. Il a toujours dit ça en privé. Si j'avais pas été avocat puis premier ministre, moi j'aurais voulu être chanteur dans un nightclub. Alors il s'est toujours pris pour un chanteur. Il aime chanter. Et je me souviens, cette fois-là, ma blonde lui dit dans l'oreille, elle dit, « Ça serait le fun de vous entendre chanter. » C'était en plein ça qu'il attendait. « Tu t'aimerais ça? » Paf! Il dit, « Tu sais pas, si qu'il y a quelqu'un qui joue du piano? Ben, » On a trouvé quelqu'un qui jouait du piano en l'espace de deux temps, trois mouvements. Il était là avec toutes ses vieilles chansons de crooner. Puis c'est patent. Et ce qui est merveilleux, un de ses chanteurs favoris, c'est Yves Montand. Il parle toujours de... Excuse-moi. Il parle toujours de l'époque où il allait à l'Université Laval. Ils avaient été voir, lui et quelques-uns de ses amis, dont Lucien Bouchard, Yves Montand au Palais Montcalm. Oui. Et pour lui, ça, c'est un des spectacles les plus extraordinaires que j'ai jamais vu. Alors, il connaît tout le répertoire d'Yves Montand par cœur. Puis il y a une voix dont l'intonation se prête à du Yves Montand. Alors, on a un plaisir fou, là. Quand on part la machine à chanson, puis qu'il décolle, là, c'est quelque chose. Puis en plus, sur scène, là, il danse, puis il est merveilleux.
When Irish eyes are smiling.
Et voilà.
Short as like a morning spring.
In the lift. Merci
beaucoup. Moi, j'ai trouvé que... J'ai trouvé que... Et plusieurs ont eu la même réaction que moi, je l'ai entendu. Il est pas mal différent de ce qu'on a de nos jours à la tête de nos gouvernements. Il était d'une autre époque et d'un autre niveau, je pense.
Les réseaux sociaux n'existaient pas dans son temps, premièrement.
C'est vrai.
T'sais, donc, la lapidation était un peu plus lente, je peux dire.
Oui.
Et l'autre chose, c'est qu'il est maintenant... Je pense que c'est un des avantages qu'ont les vieux politiciens. Ils peuvent un peu libérer leurs paroles.
Oui, oui, tout à fait.
Ils sont moins tenus à la rectitude politique, à ne pas piler sur les orteils de l'un et de l'autre. C'est pour ça que toute sa délicatesse à l'endroit de Trump m'a quand même un peu surpris. Je pensais qu'il allait y rentrer dedans plus solide.
Mais il y a toujours derrière lui le diplomate aussi, hein, qui a bien réussi sur la scène internationale. En fait, son plus beau bilan, à mon avis, c'est son bilan de politique étrangère. L'accord de libre-échange avec les États-Unis, la création de la francophonie, la libération de Mandela, c'était ce niveau-là absolument exceptionnel.
Ça, c'était émouvant. Alors, quand tu parlais de Mandela.
Ah oui. C'était vraiment émouvant. Puis cette visite-là dont il a parlé, il se trouve que moi-même, j'étais très ému parce que c'est moi qui l'ai organisé. On a eu 3 semaines d'avis, puis M. Mulroney m'a dit, « Luc, je veux un gros show, as-tu compris? Je veux que ce gars-là sente là, qu'ici au Canada, on l'aime, OK? Tu comprends ce que je veux dire? On avait fait un banquet à Toronto pour 2500 personnes dans un centre des congrès avec des musiciens canadiens, mais noirs, du rhythm and blues, puis tout ça, c'était extraordinaire. Voilà, moi aussi, je t'ai ému en écoutant ça.
Merci beaucoup, Luc Lavoie. À demain.
À demain, Myriam. Bye.
Luc Lavoie est avec nous tous les jours à 11h40.
Mais qu'est-ce que j'ai à tant l'aimer que ça m'en donne l'envie de crier sur tous les toits, elle est à moi. J'aurais l'air fin si je faisais ça. C'est pas normal, me direz-vous.